et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Alors que nous nous rapprochons de la fête celtique de Samhain et de son pendant moderne Halloween, je vous ai concocté aujourd'hui un petit recueil de contes et légendes de Cornouailles les plus effrayants. Préparez-vous donc à trembler et à mouiller vos liquettes. Ensuite, comme chaque semaine, je tenterai dans une deuxième partie de relever le défi d'improviser une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous aura envoyés sur la page Facebook de notre association. D'abord, qu'est-ce que c'était que cette période de Samhain devenue Halloween ? Samhain était une période particulière pour nos ancêtres les Celtes. Elle se situait à peu près à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, et surtout, elle marquait pour eux le début de l'année. Kernunnos, le dieu sombre au bois de serre, y combattait Lugus Belenos, son frère jumeau, le dieu du soleil. Comme il était prévu dans l'ordre des choses que ce devait être Kernunnos qui devait gagner à cette époque de l'année, puisque les nuits étaient plus longues que les jours, leur père, le dispateur Ogmios, trempait tous les guerriers morts au combat dans son chaudron de résurrection et les renvoyait sur le champ de bataille au profit exclusif du dieu cornu, ce qui lui procurait la victoire. Cette scène est d'ailleurs représentée sur le chaudron de Gundestrup, découvert au Danemark. C'était par conséquent une période où les morts revenaient, et cet aspect a perduré dans les folklores d'origine celtique, tels que celui de l'ancienne Cornouailles bretonne. Vous êtes prêts ? Allez, nous partons aujourd'hui pour un drôle de train fantôme, où vous ne serez pas effrayés par vos yeux, mais par vos oreilles, avec des histoires qui vous empêcheront certainement de dormir. Sachez d'abord qu'après le coucher du soleil, selon Jean Frison dans la revue des Traditions populaires de 1914, les âmes en Cornouailles bretonne sont plus serrées sur la terre que le sable sur la côte. Quand des âmes de trépassés se trouvent à être vues au moment où leur pénitence prend fin, elles sont obligées de la recommencer. Elles éprouvent donc la plupart du temps la même crainte d'être vues que nous de les voir, puisque cela rallonge leur temps de purgatoire sur terre. Le soir de la Toussaint, à minuit, les morts sortaient des tombes, venaient près des reliquaires des églises de village et criaient le nom de ceux qui devaient mourir dans l'année. Durant cette nuit si spéciale, les bouches sans lèvres des trépassés, des anaons comme on dit ici, recouvraient la parole et on entendait deviser entre elles les têtes de mort des ossuaires dans les églises. Ambiance, ambiance. La conversation s'engageait et peu à peu devenait générale. Un vivant, à qui il eût été donné d'y assister, aurait été renseigné en une seule nuit sur tout ce qui se passe de l'autre côté de la mort. En outre, il aurait entendu nommer tous ceux qui devaient mourir dans l'année. Un soir de la Toussaint, un mendiant eut la curiosité d'assister à cette conversation dans un cimetière et il entendit l'un des morts dire que le premier de l'année qui trépasserait, ce serait le vivant qui les écoutait. Le lendemain, devinez quoi ? Ben, on retrouva le mendiant sans vie. J'entends déjà des petits malins me dire « Mais si on l'a retrouvé mort, comment connaît-on son histoire puisqu'il n'a pas pu la raconter ?» Très bonne remarque qui montre que vous suivez. Pour vous répondre, le mendiant en question a eu le temps d'écrire ce qu'il entendait au fur et à mesure sur des feuillets que notre association a pu récupérer. C'est grâce à cela que nous connaissons son histoire et que nous savons ce qui se passe après la mort, selon les contes et légendes bien entendu. Nous avons d'ailleurs prévu de vous l'expliquer lors d'une prochaine émission. Mais revenons d'abord à nos revenants, nos anaons si vous préférez, que l'on peut rencontrer quand ils se rendent à leur lieu de pénitence, lorsqu'ils s'acheminent vers leur ancienne demeure ou quand ils retournent au cimetière. En cette période d'Halloween, de Samhain, ils sont légion. Toutefois, plus nombreux encore sont ceux qui errent par les champs et les chemins jusqu'à ce que leur temps d'épreuve soit achevé. Ils viennent punir les vivants qui les ont molestés ou leur ont simplement manqué de respect. Certains jalousent aussi les hommes qui respirent sous le ciel et se font un malin plaisir de les effrayer ou de leur nuire. On ne peut s'en débarrasser qu'en les faisant conjurer par un prêtre qui les enfermera dans un chien noir que l'on fera jeter dans les marais du Yonnelez. Pourquoi là-bas ? Parce que la tradition y situait une entrée des enfers. Pauvre bête qui n'avait rien demandé, puisqu'on vous dit de ne pas vous balader pendant la nuit durant les mois noirs. Il y aurait facilement de quoi cauchemarder, comme d'ailleurs dans ce conte recueilli par Anatole Le Braz et qui s'intitule « La tête coupée ». Une nuit que Barbara Louarn était restée affilée jusqu'à une heure très tardive, elle s'endormit de fatigue sur sa tâche. Elle avait bien près de 70 ans, la pauvre vieille. Sa quenouille lui ayant échappé des mains et ayant fait du bruit en tombant sur le rouet, Barbara se réveilla en sursaut. Elle ne fut pas peu surprise de voir toute la pièce éclairée d'une lumière blanche. Dans le milieu de sa chambre, il y avait une table ronde où Barbara avait coutume de déposer au fur et à mesure les écheveaux de lin qu'elle avait filé. Or, sur le tas d'écheveaux, elle vit une tête fraîchement coupée et d'où le sang dégoulinait. Dans cette tête, elle reconnut celle de son fils, marin à bord d'un bâtiment de l'État. Les yeux étaient grands ouverts et la regardaient avec une inexprimable angoisse. « Petiot, Petiot !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Mais que t'est-il arrivé, mon Dieu ?» Sitôt que la vieille eut parlé ainsi, la tête roula sur la table et en fit le tour par 9 fois. Puis elle reparut en haut du tas des chevaux. « Adieu, ma mère !» cria-t-elle avant de disparaître. Barbara Louarn se retrouva plongée dans l'obscurité. Des voisines la ramassèrent le lendemain, évanouie, sur le plancher de sa chambre. On apprit à quelque temps de là que cette même nuit, à cette même heure, son fils Yvon Louarn, second maître à bord du Redoutable, avait eu la tête tranchée, détachée du tronc. Suite à une fausse manœuvre, et comme c'était par gros temps, la tête avait roulé de ci de là sur le pont avant qu'on eût pu la saisir au passage. Ce que je viens de raconter est ce que l'on appelle en Bretagne un intersigne, un présage que l'on reçoit de la mort d'un proche. Pour Anatole Le Braz, le célèbre folkloriste de la fin du XIXe siècle, chaque décès est toujours précédé de 3 intersignes pour prévenir les proches. Selon un autre conte de 1886, le fossoyeur de Lanvéoc, en presqu'île de Crozon, était en ce temps-là Pouezvara le Vieux. On ne l'appelait guère que Pouezcose, le vieux Pouez. Si vieux qu'il fût, et quoi qu'il eût labouré par 6 fois toute l'étendue du cimetière, c'est-à-dire quoi qu'il eût couché successivement dans le même trou jusqu'à 6 morts, c'était un homme qui pouvait vous dire à un jour près depuis combien de temps tel ou tel était en terre, et même à quel degré de cuisson, entre guillemets, devait être arrivé son cadavre. Bref, on eût difficilement trouvé un fossoyeur plus entendu. Il continuait de voir clair comme en plein jour dans les fosses qu'il avait comblées. La terre bénie du cimetière était pour ses yeux transparente comme de l'eau. Or, un matin, le recteur le fit appeler. « Pouezcose, ma Bargouenne vient de trépasser. Je pense que vous pourrez lui creuser son trou là où le grand Repère fut enfoui il y a 5 ans. N'est-ce pas votre avis ?»« Oh non, monsieur le recteur, non. Dans ce coin-là, voyez-vous, les cadavres se conservent longtemps. Je le connais, mon Repère. À l'heure qu'il est, c'est à peine si la vermine a commencé à lui travailler les entrailles. Tant pis, arrangez-vous. La famille de Mabargouen désire vivement qu'il soit enterré à cette place-là et a payé pour. Repère y est depuis 5 ans, qu'il cède le tour à un autre. Ce n'est que justice. » Pouezcose s'en alla, hochant la tête. Il n'était pas le maître, il devait obéir, mais il n'était pas content. Le voilà de mettre pelle et pioche en terre. La fosse fut bientôt déblayée aux 3/4. Encore un coup de pioche, se dit Poise, et j'aurai, si je ne me trompe, atteint le cercueil. Il le donna de si bon cœur ce coup de pioche que non seulement il atteignit le cercueil, mais même qu'il l'éventra. Des éclaboussures infectes lui jaillirent au visage. Il se reprocha d'avoir frappé trop fort. « Dieu m'est témoin pourtant, murmura-t-il, que que je n'avais nulle intention de blesser ce pauvre Ropers. Même, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas trop gêné par le voisinage de ma Bargouenne. Le brave fossoyeur passa 2 heures à évider le fond de la fosse de telle façon que 2 cercueils puissent y tenir à l'aise, celui de Ropers occupant une espèce de retrait. Cela fait, il se sentit la conscience plus tranquille, quoique néanmoins, il ne fut pas rassuré tout à fait. L'idée d'avoir brutalisé un de ses morts lui causait de l'ennui. Il ne soupa point de bon appétit ce soir-là et s'en alla coucher plus tôt que d'habitude. Il avait commencé à s'endormir quand le bruit de la porte tournant sur ses gonds le réveilla. « Qui est là ? » demanda-t-il en se mettant sur son séant.
« Tu ne m'attendais donc pas ?»
répondit une voix qu'il reconnut aussitôt malgré son ton caverneux. « À te dire vrai, François Ropers, je pensais bien que tu viendrais. »
« Oui, je suis venu te montrer en quel état tu m'as mis. »
La lune était haute dans le ciel. Sa vive lumière éclairait toute chose dans la maison du fossoyeur.
« Vois, » continua le spectre, « on ne traite pas ainsi un vivant, encore moins un mort. »
Il avait déboutonné sa veste à longue basque. Poiscos ferma les yeux. Il y avait de quoi mourir de dégoût. La poitrine du grand Ropers n'était plus qu'un trou hideux où des fragments de côte brisée apparaissaient, mêlés à une sorte de bouillie verdâtre. « En vérité, François Ropers, suppliait le malheureux Poise, en vérité, pardonne-moi. Je ne suis pas aussi coupable que tu le penses. Je ne voulais pas toucher à ta fosse. Je savais bien que ton temps n'était pas fini, mais je ne suis qu'un domestique. Quand le recteur commande, je ne peux que m'incliner, sous peine de perdre mon unique gagne-pain. Je suis trop vieux maintenant pour changer de métier. D'ailleurs, c'est la première fois que pareille chose m'arrive. Jamais défunt n'avait encore eu à se plaindre de moi. Tous ceux du cimetière te le diront.
Je sais, aussi je ne te garde pas rancune, Poiscos. D'autant plus que tu as fait ton possible pour réparer les dommages que tu m'as causés involontairement.
Le fossoyeur ouvrit les yeux. Le spectre avait reboutonné sa veste. Poiscos l'écouta parler désormais sans épouvante. « Je vois bien, s'écria-t-il, que même dans l'autre monde, tu es resté le meilleur des hommes. »«
Hélas, » fit Ropers, « le meilleur d'ici ne vaut pas grand-chose là-bas. »«
Tu n'es donc pas entièrement heureux ?»«
Non, il me manque une messe. » J'ai pensé qu'après ce qui vient d'avoir lieu, tu n'hésiterais pas à la faire dire et à la payer de tes deniers.
Oh, certes non, je n'hésiterai pas. Tu auras la messe qui te manque, François Ropers.
Tu ne m'as pas laissé finir. Il faut que cette messe soit dite par le recteur de Crozon lui-même. Entends-tu ?
J'entends.
Merci, Poiscos,
prononça le spectre. Ce fut sa dernière parole. Le fossoyeur le vit sortir, traverser la place du bourg et franchir l'échalier du cimetière. Le surlendemain, c'était dimanche. Lors de la grand-messe de Crozon, le recteur annonça pour le mardi de la semaine à venir un service recommandé par Poesvara, le fossoyeur, pour l'âme de François Ropers de Kervignou. Ce mardi arriva. La messe fut dite. Le recteur officiait en personne et au premier rang des assistants était agenouillé Poiscos. À l'issue de l'office, Poiscos vit le recteur se diriger vers la sacristie avec, sur ses talons, le défunt François Ropers qui avait pris cher, sans mauvais jeu de mots. Tout le monde put le voir, comme je vous verrais si vous étiez dans le studio où nous nous trouvons. « Madoué, il y a encore quelque chose là-dessous, » se dit Poiscos. En effet, comme le recteur, après avoir retiré ses ornements sacerdotaux, traversait le cimetière pour gagner son presbytère par le plus court chemin, on le vit soudain s'affaisser sur lui-même et tomber, mort, non loin de la fosse fraîchement comblée, où près du cercueil de François Ropers reposait désormais celui de ma Bargouenne. François Ropers n'avait visiblement pas apprécié que le recteur fasse si peu de cas de son repos éternel. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Ambiance un peu flippante aujourd'hui, mais proximité d'Halloween oblige. Pour rester dans le thème, on se retrouve après le titre « Who Wants to Live Forever » du groupe Queen. Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi, comme chaque semaine, de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Martine Menanteau qui a été tirée au sort. Et Martine nous a proposé les éléments suivants. Une maison champignon, une libellule arc-en-ciel, un pied d'humain maladroit, un vent malin et espiègle, un arbre sage, une fée des fleurs, une fleur bavarde et une morale imposée pour l'histoire. Tout est dans la nature. Alors, il était une fois une toute petite fée des fleurs qui s'appelait Floréal. Floréal habitait dans la forêt de Huelguat, dernier avant-poste des fées avant d'entrer sur le territoire de leur cousine, les Korriganes. Notre histoire commence par une belle journée d'automne ensoleillée. La forêt s'est vêtue de rouge et d'or et offre un spectacle magnifique à qui veut bien s'arrêter pour le regarder. Seule, Blanche, la petite pâquerette bavarde, voisine de Floréal, joue les rabat-joie. Et ça y est, dit-elle. La saison des promenades automnales va recommencer et la forêt va grouiller d'humains balourds qui ne regardent jamais où ils posent leurs pieds. Tu devrais te méfier, Floréal. Le champignon qui te sert de maison est trop petit pour qu'un humain le voie et il risque d'être écrasé. Je l'ai justement choisi pour sa taille insignifiante, répondit Floréal. On ne le voit pas, donc je ne crains rien. Au lieu de râler, profite donc de cette belle journée. Nous verrons bien, répliqua Blanche. Et je râle si je veux, mademoiselle l'insouciante. Malheureusement, Blanche eut raison. Et lorsque Floréal revint de sa promenade avec son amie la libellule arc-en-ciel, elle trouva sa maison écrasée par un pied d'humain sans doute maladroit, car la petite fée ne pouvait envisager que cela ait été fait exprès. Elle ne put retenir ses larmes. « Ma maison est détruite, je dois en trouver une autre. Mais ne risquera-t-elle pas d'être détruite, elle aussi ? Devrais-je donc quitter la forêt et m'installer chez les humains en ville ?» Autant de questions qui se bousculaient dans la tête de Floréal. « Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu, » s'empressa de lui dire Blanche la pâquerette bavarde. « Un peu de compassion serait la bienvenue, » gronda la libellule arc-en-ciel. « Floréal a perdu sa maison et toi tu lui fais la leçon. Tu devrais plutôt chercher comment l'aider. » « Je n'ai pas besoin de chercher, » répliqua la pâquerette piquée au vif. « Je sais, moi, comment l'aider. Voici venir le vent Zéphyr. Prenez un de mes pétales et lancez-le en l'air. Zéphyr l'emportera jusqu'au Vénérable, le plus vieux des arbres de la forêt. Il en connaît chaque recoin et pourra vous indiquer où Floréal aura la possibilité de se reloger.
« Je ne veux pas t'enlever un pétale, tu vas avoir mal, » dit Floréal.
« Disons que c'est pour me faire pardonner d'avoir été insensible avec toi alors que tu es sans domicile. Allez, au revoir donc, petite fée, et sois plus prévoyante la prochaine fois. » Floréal embrassa la pâquerette et lui préleva un pétale qu'elle lança ensuite dans le vent qui se levait. « Emmène-nous jusqu'au vénérable de la forêt, Zéphyr, » dit la libellule arc-en-ciel. Zéphyr était un petit vent malin et espiègle. Il les emmena au plus vieil arbre sous les futaies, mais en leur faisant faire plusieurs détours et en s'arrêtant devant plusieurs arbres pour leur faire croire qu'ils étaient arrivés avant de repartir à nouveau. Finalement, ils parvinrent à destination et la petite fée des fleurs s'adressa au vieil arbre, un chêne plusieurs fois centenaire. « Ô vénérable, toi qui connais toute la forêt, saurais-tu où je pourrais me loger ? L'hiver ne tardera pas et le champignon qui me servait de maison a été écrasé. Je suis une fée des fleurs, mais peut-être devrais-je m'installer en ville chez les humains. Ils ont, paraît-il, des fleurs dans des pots de terre. Peut-être pourrais-je m'en occuper.
Souhaites-tu vraiment t'occuper de fleurs dont les racines sont emprisonnées? Souhaites-tu aller chez les humains qui polluent l'air qu'ils respirent?
Bah non, mais ai-je le choix? Si je m'installe dans un autre champignon, lui aussi risquera d'être écrasé par un autre pied humain maladroit.
Eh bien, c'est donc de la hauteur qu'il te faut. « Dans ce cas, j'ai de très beaux champignons sur mon tronc qui seraient ravis de t'accueillir. »
Et ainsi fut fait. La petite fée Floréal s'installa dans un superbe polypore pied de chèvre à 3 mètres de hauteur qu'elle aménagea avec goût et dans lequel elle eut même suffisamment de place pour recevoir son amie la libellule arc-en-ciel. Elle ne regretta jamais son choix, car elle savait que tout était dans la nature.
« Voilà Martine, je pense avoir utilisé tous vos éléments. J'espère que mon histoire vous conviendra et que le défi a été relevé. Dites-le nous sur la page Facebook de l'association. »
clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Évasion pour un nouveau numéro de « Il était une fois encore Nouailles ». 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Tiens à vous et à Véchal.